Jour 18, vous et le complexe du sauveur blanc. C'est drôle, les esclavagistes, eux aussi, pensaient qu'ils faisaient une différence dans la vie des Noirs, qu'ils les sauvaient de leurs manières africaines. Autre siècle, même logique. J'aimerais que les gens comme eux arrêtent de penser que les gens comme moi ont besoin d'être sauvés. Angie Thomas. Qu'est-ce que c'est ? Depuis 2018, dans le bureau ovale, alors qu'ils rencontraient des parlementaires pour évoquer la protection des immigrés venus d'Haïti, du Salvador et des pays d'Afrique, le président américain Donald Trump a demandé « Pourquoi vouloir accueillir tous ces gens venus de pays de merde ?» La question a choqué le monde entier, mais à vrai dire, elle reflétait ce que l'on pense souvent des personnes noires autochtones et de couleur sans le dire ouvertement. Un des aspects fondamentaux de la suprématie blanche réside dans l'idée que ces personnes et leur pays d'origine sont moins valables, ont un potentiel, une intelligence et une volonté d'indépendance inférieurs aux détenteurs de privilèges blancs et aux pays à dominante blanche. C'est ce sentiment qui est à l'origine du complexe du sauveur blanc, la conviction que les détenteurs de privilèges blancs, persuadés de leur supériorité, ont l'obligation de sauver les personnes noires, autochtones et de couleur de leur médiocrité et de leur incompétence supposée. Le phénomène, que l'écrivain T.J. Cole a baptisé le complexe industriel du sauveur blanc, en est l'illustration la plus flagrante. Il s'agit pour des missionnaires et bénévoles blancs bien intentionnés, et grâce au business du volontourisme, d'aller secourir des personnes noires autochtones et de couleur d'Afrique, d'Asie ou d'Amérique latine, et de les tirer de la pauvreté et du sous-développement qui frappe leur pays. Même animés des meilleures intentions, ces bénévoles ne sont souvent armés que de leur passion et de leur désir de bien faire, et ne cherchent pas à comprendre le contexte historique et culturel dans lequel ils mettent les pieds. On monte en épingle leur capacité à résoudre les problèmes rencontrés sur place, sans écouter ceux qu'ils prétendent aider, ni même collaborer avec eux. Les détenteurs de privilèges blancs sont en outre persuadés que par leur simple existence et leur avantage, ils peuvent sauver les personnes noires, autochtones et de couleur des problèmes extrêmement complexes et subtils auxquels ils sont confrontés. On décrit ces pays et leurs citoyens comme étant pauvres, sous-développés et corrompus, sans jamais mettre en valeur leur croissance économique, leurs avancées technologiques, leurs intellectuels, militants, chefs d'entreprise, créateurs, scientifiques ou ingénieurs. On s'intéresse guère à l'impact du colonialisme et de l'impérialisme suprémaciste blanc sur ces pays, pas plus qu'aux problèmes auxquels ils doivent faire face aujourd'hui. Ils servent de faire valoir aux détenteurs de privilèges blancs ces sauveurs bienveillants, ces bienfaiteurs de peuples destinés à demeurer inférieurs à moins d'une intervention blanche. Et pour élaborer ce discours, il suffit d'un selfie avec un enfant à la peau noire ou brune, souvent sans le consentement de ses parents, ni si consentement il y a, sans qu'ils comprennent que ces photos seront utilisées pour se mettre en scène. Dans son article « Le complexe industriel du sauveur blanc » paru dans The Atlantic, T.J. Cole explique « On entend trop souvent la chanson dans laquelle l'Afrique sert de toile de fond aux fantasmes de conquête et d'héroïsme blanc. Du projet colonial à Out of Africa, en passant par La Constance du Jardinier et Connie, 2012, l'Afrique fournit un espace sur lequel les égaux blancs peuvent aisément se projeter. C'est un espace libre où les règles habituelles ne s'appliquent pas. En allant en Afrique, n'importe quel Américain ou Européen peut devenir un sauveur tout puissant, ou tout du moins, voir ses besoins émotionnels comblés. On rencontre donc aussi le complexe du sauveur blanc au cinéma et dans la fiction. Des films comme Le Dernier Samouraï, The Blind Side, Avatar, La Couleur des Sentiments, entre autres, racontent l'histoire d'un messie blanc qui vient au secours de personnes noires autochtones et de couleur. Souvent, on attribue aux acteurs blancs des rôles d'une grande profondeur émotionnelle et riche en nuances, tandis que les personnages noirs, autochtones et de couleur sont fantasmés, regorgent de clichés raciaux ou évoluent dans des contextes culturels schématiques. Le film La Grande Muraille, dans lequel l'acteur Matt Damon incarne la figure centrale du sauveur dans une histoire fictive se déroulant en Chine, représente un autre exemple excellent de ce phénomène. Nous devons cesser de perpétuer le mythe raciste, selon lequel seul un homme blanc peut sauver le monde. Il n'est fondé sur aucun fait réel. Nos héros ne ressemblent pas à Matt Damon, a réagi l'actrice américaine d'origine taïwanaise Constance Wu. Cependant, le complexe du sauveur blanc ne se limite pas au volontourisme et à l'industrie du spectacle. Qu'un détenteur de privilèges blancs s'envole pour l'Afrique ou qu'il reste chez lui, l'idée que les personnes noires, autochtones et de couleur sont inférieures et incompétentes sans l'intervention blanche imprègne la conscience suprémaciste. Des professeurs qui veulent sauver leurs élèves de couleur, des particuliers et des entreprises qui organisent des levées de fonds et des projets à but non lucratif pour aider des personnes noires, autochtones et de couleur luttant contre l'exclusion et la discrimination, et même de façon plus nuancée, car ce n'est pas toujours le cas, des parents détenteurs de privilèges blancs qui veulent adopter des enfants de couleur, peuvent tous faire preuve du complexe du sauveur blanc. Plus subtilement, le complexe du sauveur blanc, c'est aussi le détenteur de privilèges blancs qui couvre la voix des personnes noires, autochtones et de couleur ou parle à leur place, convaincu qu'il est plus apte à dire ce qu'il faut. Comment le reconnaître? Voici quelques exemples du complexe du sauveur blanc en action. Missions et voyages de volontourisme bien intentionnés dans des pays où vivent des personnes noires autochtones et de couleur, mais peu de préparation sur la façon de se rendre utile et une manière contestable de décider de ce qui le sera. Schéma narratif du héros sauveur blanc au cinéma, à la télévision et dans la fiction. Envie irrépressible d'intervenir et de parler au nom des personnes noires autochtones et de couleur de leurs besoins, au lieu de leur laisser la possibilité de s'exprimer en leur propre nom. Croire au bien fondé de l'idée selon laquelle les personnes noires autochtones et de couleur viennent de pays de merde, où règne pauvreté, sous-développement et corruption, et la perpétuer, consciemment ou inconsciemment. Focaliser le discours blanc sur la libération des personnes noires autochtones et de couleur. Par exemple, être convaincu que les musulmanes de couleur qui décident délibérément de porter le voile doivent être libérées de leur soi-disant oppression, en y renonçant et en adhérant au féminisme occidental blanc. Les détenteurs de privilèges blancs font des personnes racisées et de la discrimination leur cheval de bataille pour apaiser leur culpabilité blanche et pour avoir le beau rôle. Par exemple, en prenant conscience du manque d'accès aux soins qui frappe les mamans noires aux États-Unis, une blanche a annoncé à l'une de mes connaissances noires qu'elle voulait monter une association à but non lucratif pour s'attaquer au problème. Bien que bienveillante au premier abord, cette décision néglige complètement le fait que d'autres, dont des noirs, mènent déjà ce combat, et que pour faire une différence en tant que détentrice de privilèges blancs, il vaudrait mieux cultiver son propre antiracisme et demander aux associations existantes quel est le meilleur moyen de les soutenir. Il est courant de vouloir avoir le beau rôle. Pourquoi vaut-il vous pencher sur la question? Au premier abord, le complexe du sauveur blanc semble anodin. Essayer d'aider les exclus, d'être le porte-parole des sans-voix, de défendre ceux qui ne peuvent se défendre seuls, paraît même honorable. En réalité, cependant, le complexe du sauveur blanc est une autre forme de suprématie blanche. Il infantilise et avilit les personnes noires, autochtones et de couleur. Il sous-entend que sans l'intervention, l'enseignement et les conseils des blancs, elles resteront démunies. Que sans la blanchité, les personnes noires, autochtones et de couleur, considérées comme inférieures aux détenteurs de privilèges blancs dans l'imagination blanche, ne survivront pas. Le complexe du sauveur blanc est condescendant et cherche à apaiser la culpabilité blanche. On peut y voir une tentative d'améliorer la situation, mais il ne sert qu'à valoriser les détenteurs de privilèges blancs en redorant leur amour-propre. Il fragilise volontairement les personnes noires, autochtones et de couleur et renforce l'idée suprémaciste blanche, selon laquelle elles ne sont utiles que dans la mesure où elles peuvent servir l'intérêt des blancs, instrumentalisation, qui savent mieux qu'elles ce qui leur convient, supériorité blanche. Le complexe du sauveur blanc est une forme de colonialisme. C'est aussi pervertir le passé. Les détenteurs de privilèges blancs ont autrefois colonisé, lésé, maltraité, kidnappé, réduit en esclavage et marginalisé les personnes noires autochtones et de couleur. Le complexe du sauveur blanc occulte cette réalité et réécrit l'histoire. Piste d'introspection pour votre journal. Question 1. Quel discours de sauveur blanc avez-vous gobé, consciemment ou inconsciemment? Question 2. Avez-vous cru les personnes noires autochtones et de couleur démunies? Avez-vous cru l'intervention et l'aide des détenteurs de privilèges blancs nécessaires? Expliquez. Question 3. Avez-vous essayé d'intervenir auprès de personnes racisées, de leur donner des consignes ou des conseils, en étant persuadé que votre vision, supérieure blanche, offrirait les meilleures solutions? Expliquez comment. Question 4. Avez-vous noyé les propos des personnes noires autochtones et de couleur, ou parlé à leur place, parce que vous estimiez pouvoir expliquer mieux qu'elles leurs besoins et leur vécu? Avez-vous passé leurs paroles au filtre blanc? Expliquez comment. Question 5. Avez-vous cru inconsciemment devoir aider à démanteler le racisme en tant que gentil sauveur blanc? Expliquez. Question 6. Comment avez-vous réagi quand des personnes noires autochtones et de couleur ont refusé votre aide ou celle d'autres détenteurs de privilèges blancs et vous ont conseillé d'écouter, de travailler et de suivre leur exemple? Qu'avez-vous ressenti? Fragilité blanche, police de la parole, exceptionnalisme blanc, supériorité blanche, etc.